Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-le-Sauveur de Peyre, à la fête de la transition dédiée à tous ceux qui veulent trouver des alternatives crédibles, bien sûr, au monde dans lequel nous vivons. Il y a donc des stands qui sont réservés aux associations diverses, un espace troc, bien sûr, des herboristes, un espace éco-construction, etc., etc. Je vous propose aujourd'hui donc une balade dans cette fête qui se veut conviviale et bien sûr ouverte à tous. Voilà, donc je suis avec la personne, vous appelez comment ?
Laurence Nouveau.
Qui fait partie des. Qui a monté les jardins de Cocagne.
Voilà, je suis directrice du jardin de Cocagne qui a ouvert au mois de novembre sur la commune de Payers, à 4 km de Marvejols.
Oui, et est-ce que vous pouvez nous dire le but du jardin de Cocagne ?
L'objet d'un jardin de Cocagne, c'est un réseau déjà national. Il y a 120 jardins en France. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir un contrat de travail à des personnes qui sont loin du travail et qui ont des difficultés d'insertion, qui travaillent 26 heures par semaine sur l'exploitation agricole et qui vont en plus pouvoir bénéficier d'un suivi social et professionnel. Donc on est une équipe de permanents avec un encadrant qui est maraîcher biologique, donc qui va travailler avec eux sur l'installation de l'exploitation et bientôt sur la production des légumes et des fruits bio. Moi je gère la structure en tant que directrice et j'assume également le suivi social et professionnel des salariés. Et on a également une secrétaire à mi-temps qui nous aide aussi pour la comptabilité et toute la communication du jardin.
Voilà, donc le but du jardin de Cocagne, c'est de promouvoir le.
C'est de remettre des gens au travail qui en sont loin,
oui.
En premier. C'est l'objet premier du jardin. Et en second temps, c'est de produire des légumes et fruits bio sur un territoire et qu'on puisse fournir aux adhérents un panier par semaine qui aura le mérite d'être produit sur le territoire de Lozère. Donc c'est très bien.
C'est le système des AMAP.
Voilà, Cocagne avait initié ça il y a 25 ans,
oui.
Sur un modèle suisse d'ailleurs. Mmh. Et donc, vous êtes adhérent et vous ne choisissez pas le contenu de votre panier. Et c'est le maraîcher qui a préparé son plan de culture sur l'année. Et donc, chaque semaine, on sait ce qu'on va pouvoir offrir aux clients.
D'accord, fruits, des légumes.
Des fruits, des légumes. Alors, on réfléchit déjà à la diversification. On espère pouvoir installer un rucher. On espère pouvoir installer un verger avec des variétés de Lozère, oubliées. Donc on collabore avec Verger de Lozère, qui est une association qui fait des interventions sur le jardin pour qu'on puisse à terme greffer des arbres, semer des pépins et produire et avoir notre verger à terme dans 5-6 ans.
Et de toute façon, privilégier les circuits courts.
C'est ça, c'est que le consommateur, on l'appelle comme ça, nous, va pouvoir consommer des fruits et légumes produits à Payers, en Lozère, et non pas une pomme bio qui vient de tant de kilomètres. Enfin, il n'y aura pas de transport, on ne vendra que ce qu'on produira sur place.
Voilà, donc le consommateur s'y retrouve.
C'est ça.
Mais ça me paraît une très bonne initiative.
Ce qui est intéressant, c'est d'allier le développement économique du territoire.
Ouais.
Parce qu'on a quand même créé 11 emplois cet automne. Donc ce qui n'est pas non plus anodin sur un territoire comme la Lozère. C'est d'allier cette dynamique-là et puis de faire de la production bio en même temps. Voilà. Donc on est sur l'économique, mais aussi sur le volet social. Et voilà.
Cette journée-là, c'est aussi un échange de savoir. Ça fait partie de la transition, dans ma définition à moi, mais la transition, chacun y met la définition qu'il veut derrière.
Voilà, donc si je comprends bien, c'est une façon de. La transition, c'est une façon d'essayer de vivre autrement.
De vivre autrement.
Et dis-moi, tu es herboriste depuis combien de temps ?
Depuis 2007. 80. Je ne sais plus. Ça fait plus 97... de 10 ans que je suis herboriste. Oui. Et mais encore une fois, ce n'est pas reconnu en France. Dans mon métier, je cultive des plantes à Saint-Sauveur-de-Peyre. Mmh. Je fais beaucoup de cueillettes sauvages. Je suis d'ailleurs éco-certifiée depuis peu. Et je fais beaucoup de sorties botaniques, je fais des conférences dans des, autant des écoles que des, pour des foyers ruraux, que pour des maisons de retraite, que c'est un domaine tellement vaste et tellement passionnant qu'on peut autant y intéresser les enfants que, les, que tout le monde, que les adultes. Alors, cette année, j'ai fait mes premiers essais de distillation, des essais qui se sont avérés plutôt concluants. Là, j'ai du pain sylvestre. Je vais faire de la lavande au mois d'août. Mmh. Je vais faire du genévrier en septembre-octobre. Et je ferai déjà ces trois-là tous les ans. Et de temps en temps, je rajouterai une essence de plus à mon étalage.
Voilà. Et donc, sur ton stand, qu'est-ce que tu as? Tu as peut-être ta production
Sur mon stand, j'ai mes cueillettes et mes cultures en mélange. J'ai boisson matinale, boisson du soir, boisson silhouette. J'ai également des infusions simples de la mélisse, de l'aubépine, des bourgeons de pin pour les voies respiratoires ou tout simplement pour le plaisir aussi. C'est tout en tarif libre. Le tarif libre, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir boire un sirop avec les moyens qu'il a. Et aussi, c'est pour réfléchir à, pour que les gens, avant de mettre la petite pièce dans la boîte, personne ne regarde ce que met la personne, comme ça, il réfléchit à ce que ça peut valoir réellement, mmh. et il donne ce qui lui paraît le plus juste ou ce qu'il peut. Moi, voilà, c'est encore notre rapport à l'argent.
Allez, voilà. Et puis après, je reviens pour me décider sur les hydrolats.
Nous sommes sur le stand d'un autre herboriste.
Bon, bah, et vous pouvez me mettre un flacon aussi de côté ? Ouais, de lavande vraie. Ils sont plus grands que ça ou pas ?
Non, non, c'est du 8 millilitres.
D'accord.
Et voilà, Cécile, une vieille connaissance. Comment ça va ?
Ben, ça va. C'est chouette de voir que la fête de la transition a été reconduite d'une année sur l'autre.
Oui.
Et puis de voir tous ces exposants dans cette même mouvance. Voilà, de rapprocher l'homme de la nature, c'est chouette.
Oui, puis essayer de faire en sorte qu'on vive autrement aussi.
Voilà, c'est ça.
Donc, monsieur herboriste, donc, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Mais...
Herboriste est un grand mot, parce qu'en France, nous n'existons plus.
Hein. Et oui.
Voilà. Donc je me dis plutôt paysan en herbe,
oui.
avec un S en herbe. Voilà. Donc je suis producteur de plantes, cueilleur en sauvage ou cultivateur. Donc moitié-moitié quoi. Hein. Mm. Donc tout ce que je n'ai pas dans la nature, ben, je le mets en culture si je peux, si le climat le permet quoi. C'est le cas du thé d'orage par exemple, où il y a certainement un risque sur la ressource sauvage. Donc j'ai mis en culture en 2008 pour pallier à la cueillette en forêt quoi. Hein. Voilà. Partout il y a pas mal de cueilleurs ouais. qui viennent.
C'est un petit peu comme les champignons quoi.
Oui, bon, on n'y va pas à la frontale quand même, comme les champignons à Lozère, mais il y a quand même du monde. Quoi. Donc c'est pour ça que dès 2008, j'ai décidé de le mettre en culture. Quoi.
Et l'avantage de l'herboristerie par rapport à la médecine classique, selon vous
Disons que l'avantage des plantes, c'est qu'elles sont à disposition des gens localement. Donc on n'a même pas besoin d'aller à la pharmacie, on n'a même pas besoin d'une ordonnance. On peut se soigner avec les plantes qu'on a autour du jardin ou dans le jardin. Et ensuite, il y a moins d'effets indésirables, quoi qu'il puisse y en avoir sur les plantes. Mais lorsqu'on les connaît un peu, on arrive à le maîtriser facilement. Mmh. Quoi, hein.
Et par rapport aux antibiotiques, on dit parfois que les plantes peuvent être une alternative intéressante aux antibiotiques.
Exactement, oui. Une huile essentielle, une plante déjà, hein, est composée de dizaines, de centaines de molécules. Les Canadiens détectent 800 molécules dans la mélisse. Détectent. C'est-à-dire que s'ils allaient plus loin, plus finement, ils en détecteraient sûrement plus, quoi. Hein. Donc cette plante, donc l'huile essentielle est à la concentration extrême de la plante, c'est le produit naturel le plus concentré qui existe. Cette huile essentielle réunit ces molécules. Et ces molécules agissent séparément, mais elles agissent en synergie. Il n'y a pas que les plantes d'un côté et la médecine conventionnelle de l'autre. Mmh. Il y a toute une panoplie. Et déjà, il faut commencer par l'alimentation. Ensuite, bon, il y a l'homéopathie. Enfin, il y a tout un tas de médecines alternatives, on va dire. Donc, il faut jouer avec la panoplie, quoi, je dirais.
Je m'approche de l'endroit où on mange. C'est quoi ? C'est des aubergines ? C'est...
Je suis en train de manger une purée d'aubergine.
Caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine.
Excellent. Là, vous avez des mousses. Mmh. Purée de pois chiches.
Ouais. Et on a discuté un peu tout à l'heure. Là. Vous connaissez Radio Barthas ?
Oui, 107.00.
Oui.
J'écoute voilà. Quand j'en ai marre de France Inter. Et
au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des veines. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Et pour vous, la transition, c'est quoi ?
Alors, là, on est aujourd'hui le 12 avril à Saint-Sauveur-de-Père pour la fête de la transition. Moi, je suis là à plusieurs titres. D'abord, en tant que proche de Karine, donc de l'association Losherbes, j'ai aidé un peu à l'organisation. Et je suis là aussi en tant que bénévole du CCFD Terres Solidaires. Donc, c'est une association de solidarité internationale. Ça veut dire en quelques mots qu'elle soutient des projets dans des pays qu'on appelle en voie de développement, encore que les frontières sont parfois minces, mais des pays en tout cas où il y a plus de pauvreté, surtout en zone rurale. Et donc, de manière générale, on soutient des projets avec plusieurs thématiques, que ce soit la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les paysans du Sud qui produisent souvent notre nourriture puissent manger à leur faim, parce que malheureusement, il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde et ce sont souvent des paysans. C'est un des aspects, je ne vais pas parler de toutes les thématiques qu'on aborde, c'est celle-ci en tout cas là qui nous a intéressés en tant que bénévoles, la souveraineté alimentaire. Et l'idée, c'est de prendre conscience de comment nos modes de consommation, ici au Nord, en France ou dans des pays plus riches, on va dire, comment ils peuvent avoir des conséquences,
un impact,
voilà, au niveau mondial sur comment fonctionne l'agriculture, et du coup un impact qui peut souvent être négatif pour les paysans, on va dire, voilà, les plus pauvres. Et donc le projet qu'on est en train de mettre en œuvre ici en Lozère, c'est un projet qu'on a appelé d'immersion. C'est-à-dire qu'on a un de nos partenaires à l'étranger, en l'occurrence un partenaire d'une association en Uruguay, qui va venir ici en France et qui va être pendant 5 jours en Lozère. Et donc l'idée, c'est de lui présenter notre territoire et de présenter des initiatives qui justement vont dans le sens d'une plus grande solidarité entre Nord et Sud. Donc on a insisté sur l'agriculture locale. Et donc en fait, notre partenaire va découvrir un certain nombre d'acteurs ici sur notre territoire. L'idée, c'est qu'avec lui, on a prévu un groupe d'une quinzaine de personnes. Donc ce sont principalement des bénévoles du CCFD, mais c'est ouvert aussi à des personnes qui seraient intéressées soit pour une visite ponctuelle, soit pour l'ensemble de la rencontre. Alors pour le détail, le programme, on va dire le détail, le vendredi 2 mai, on sera à Florac dans la matinée. Et là, c'est pour faire une présentation générale de la Lozère à notre partenaire. Et lui, en retour, présentera son action en Uruguay.
Ah, c'est intéressant, ça, oui.
Le vendredi, on sera au Marazeil, donc, qui est un projet qui a été soutenu par Terre de Liens, un projet de soutien aussi à l'agriculture locale et diversifiée, l'idée d'avoir une ferme diversifiée, on va dire. Le samedi, il y aura la visite des jardins de cocaïne de Lozère. Et la visite chez un particulier sur des réflexions autour de l'autonomie énergétique, puisque c'est une personne qui a bricolé un peu chez elle une petite centrale hydraulique et puis des panneaux solaires, et donc voilà, réfléchir là-dessus. Et voilà, donc il y a un certain nombre de rencontres comme ça qui vont avoir lieu. Et voilà.
Agriculture bio, panneaux solaires en plein dans la transition, là.
Bah, on essaye en tout cas, il y a toujours après un regard critique à avoir, les panneaux solaires, est-ce que c'est la solution, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont... Mais voilà, on avance petit à petit,
oui,
on cherche. Mais effectivement, il y a des réflexions communes autour de la transition. Les bénévoles du CCFD, on avait réfléchi ensemble à la transition.
J'interviewe la personne qui s'occupe qui tient le stand de l'éco-construction. Pourquoi utiliser les nouveaux matériaux, enfin pas des nouveaux matériaux, mais des matériaux anciens qui étaient tombés un peu en désuétude?
Alors l'intérêt d'utiliser ce genre de matériaux sont bien plus vieux que beaucoup de matériaux dits modernes ou contemporains. À titre d'exemple, la botte de paille, la plus vieille maison en France, 1920. La laine de verne existait, venait de commencer à apparaître. Le bois, c'est l'Antiquité. Donc des nouveaux matériaux, la terre est encore utilisée, et une des premières, après la grotte, c'était un des matériaux utilisés en éco-construction. Donc ce sont vraiment des matériaux anciens. On va surtout s'attacher à des matériaux peu transformés et locaux.
Voilà.
À partir du moment où on utilise des matériaux peu transformés et locaux, on peut largement parler d'éco-construction.
Voilà. Et les avantages de l'éco-construction
L'avantage de la conception d'éco-construction, c'est en principe relativement basique. On va utiliser des principes simples qu'utilisaient aussi les anciens. Quand on parle d'approche, par exemple, de conception bioclimatique pour un bâtiment, ça veut dire qu'on va construire un bâtiment en fonction du vent, en fonction du soleil, en fonction des rivières, ce que faisaient les anciens. On ne mettait pas n'importe quelle auberge dans n'importe quelle vallée. Donc ça, c'est un principe de base qui s'applique. Et son intérêt, c'est effectivement se préserver de l'environnement un peu agressif. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les lotissements plein nord. L'autre intérêt, c'est voilà, on va limiter notre empreinte environnementale en utilisant des matériaux peu transformés. Et le jour où le bâtiment disparaît, ça va limiter le déchet.
La terre retourne à la terre, en fait.
La terre retourne à la terre, la paille retourne à la terre, bois à la terre. Effectivement, oui. Ouais.
Voilà, c'est aussi une façon d'économiser les matériaux, d'éviter le gaspillage.
D'optimiser l'utilisation des matériaux locaux, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Tout en gardant le même niveau de confort d'un point de vue de l'habitabilité, voire même en l'améliorant, puisque une maison éco-construite sera normalement aussi une maison qui va prendre en considération la perméance des murs, c'est-à-dire la migration de la vapeur d'eau. Donc on va assainir le bâtiment au niveau de la vapeur d'eau, donc de ces pics après une douche ou après une cuisine intense, la vapeur d'eau va migrer à travers le mur. Donc on va limiter le plus ou le trop de vapeur d'eau. De même qu'on va utiliser des matériaux sains. Donc là, on n'aura pas de composants, ce qu'on appelle les composants organiques volatiles. Donc entre autres, le formaldéhyde. Donc c'est aussi une maison ou un bâtiment qui sera sain. Et comme on rajoute généralement un isolant de forte épaisseur, l'exemple, le symbole, c'est un peu la paille, on isole vraiment beaucoup. Donc, moralité, on préserve l'environnement, on préserve la santé des hommes en même temps.
Voilà, bah, c'est une très bonne chose. Hein. Voilà. Et ça se développe beaucoup?
Alors, le beaucoup, je ne sais pas. Ça se développe. Alors, la réponse est oui, bien sûr que ça se développe. Le beaucoup, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a en gros recensé à peu près 3000 maisons paille en France. Mmh. Voilà, il reste quand même à l'année, je ne sais pas, le niveau de construction de maisons individuelles à l'année, conventionnelle, est énorme. La construction paille représente 0,01%.
Oui, et par rapport aux autres pays
Ah, je ne connais pas bien les autres pays. En Angleterre, ils construisent beaucoup en paille, en ossature bois à paille. Dans les pays du Nord, pas mal. Dans les pays du Sud, tous les pays latins, beaucoup moins.
Ben oui.
Mais on reste quand même en éco-construction. Par exemple, la maison terre, l'utilisation du matériau terre est quand même le matériau le plus utilisé dans le monde, encore aujourd'hui.
J'écris en dessous, tu crois, ou je continue?
Donc, c'est intéressant de le savoir.
Bon, ben, je vous remercie.
C'est bon, je vous en prie.
Mais comme ça, on économise du temps.